Je tiens à rappeler que tout le parvis, tout le tabernacle, l'arche, tous les objets qui sont dans la tente de la rencontre nous rappellent Christ. Les couleurs, l'argent, rédemption, l'or nous parlent de la divinité de Christ. Tout nous parle de Christ. Les choses n'ont pas été faites comme ça, parce que Dieu a dit à Moïse, « Bon, bah, écoute, fais comme tu veux. » Ça n'a pas été fait comme Moïse voulait. D'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Dans le livre des Juges, il y a quelque chose, une phrase qui ressort assez régulièrement, je dirais malheureusement. Chacun faisait comme il voulait. Or, le peuple de Dieu ne doit pas faire comme il veut. On ne fait pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Je sais que c'est à la mode dans certains cas de figure, mais gare à ceux qui rajoutent des choses dans la Bible. Il y a ceux qui, parce que c'est les ennuis, alors ils retranchent. Ne doutez pas de ce que je viens de dire. J'ai connu un homme qui, lorsqu'il lisait quelque chose que ce n'est connaît pas, il déchirait la page. Donc ne doutez pas de ce que je viens de vous dire, au moins. Et nous n'avons pas, nous ne sommes pas appelés, frères et sœurs, à faire ce que l'on veut ou faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et si les gens, nous sommes des lecteurs assidus de la Bible, je veux le croire et je l'espère, si tous ceux qui avaient une religion, qui se disent chrétiens, dans la diversité du christianisme, lisez la Bible. Il y a longtemps, très longtemps, que certaines religions n'existeraient plus, parce qu'on se rendrait compte que ce n'est pas conforme à la Bible. Dans une certaine religion, je tairai le nom, j'ai à la maison un document qui atteste ce que je vais vous dire en quelques mots. C'est une photocopie de la bibliothèque qui a été retirée d'un ouvrage en bibliothèque de Paris. Disait en quelques mots, ne lisez pas trop la Bible. Parce que si, n'invitez pas les gens à lire la Bible, parce que si les gens lisent la Bible, ils se rendront vite compte que nous ne sommes pas, je vous dis avec mes mots, conformes selon ce qui est écrit. Donc il ne faut pas inviter le peuple à lire la Bible. Je vous invite à lire sans cesse la Bible. Donc, Moïse a reçu les commandements de Dieu pour pouvoir faire la tente de la rencontre, le parvis, et tout est calculé minutieusement. Ce n'est pas une pensée humaine, mais c'est simplement, c'est la pensée de Dieu. Parce que Dieu avait son objectif, nous parler de son Fils, Christ, et rien que Christ. Le lieu très saint était aussi appelé par les Israélites le lieu de la présence sainte. Alors, bien sûr, on pourrait dire que dans l'Église, ce sont des locaux. Nous qui sommes allés, pour certains, au musée du désert, dans le Gard, on s'est rendu compte, bon, on le savait, pour la plupart le savaient peut-être, mais qu'on pouvait être très bien dans la nature, se retrouver. Là, par exemple, si les locaux brûlaient, qu'ils fassent bon, on pourrait très bien aller dans la Pinède, hein, faire le culte. Voilà, pas besoin d'estrade non plus, mais enfin, on voyait qu'ils organisaient des tonneaux à grains ou des tonneaux à vin qui étaient, enfin, pour calfeutrer, pour cacher la chair, pour que le pasteur puisse prêcher, voilà. Donc, nous savons bien que ce n'est pas les locaux, mais ce n'est pas une question de local, c'est une question de comment je rentre dans la présence de Dieu. Le dimanche matin, je peux rentrer. Bon, allez, 10h, ça va commencer. Bon, il ne commence pas, lui, là. 10h05, j'ai autre chose à faire, moi. Si on vient comme ça, ce n'est pas la peine. Un jour, j'ai dit à un brave, tu n'as plus le même regard. Tu n'as plus le même regard quand tu viens. Il n'a pas écouté le conseil. Il n'est plus parmi nous. Parce qu'il n'a pas voulu changer. Pas parce que moi je lui dis de ne pas venir, hein, parce qu'il a décidé de ne plus venir. Mes frères et sœurs, quand on rentre dans la présence de Dieu, il faut prendre conscience que nous rentrons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement à l'église. Cette présence de Dieu se fait chez moi. Je veux dire, je dis toujours les mêmes endroits. Ça se fait dans la cuisine, dans mon bureau, dans mon canapé. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse. J'espère ne choquer personne, mais moi, ça me choque. Mais en même temps, je respecte. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire, personnellement. Alors, je vous explique, j'espère ne choquer personne. Et si vous le faites, si vous, ça ne vous pose pas de problème, continuez. Mais c'est juste pour vous donner un avis personnel. Je suis parfois étonné de voir qu'il y a, j'espère ne choquer personne. Ce n'est pas un jugement, ce que je vais dire. Si je viens vous visiter et que je demande d'aller aux toilettes, c'est simplement parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Il n'y a pas de calcul. Je ne suis pas là en train de dire, bon alors, je vais aller dans les toilettes, je vais regarder comment que c'est fait, après je vais dans la salle de bain, je regarde. Vous voulez un café, alors je rentre dans la cuisine pour voir comment que c'est fait. J'ai autre chose à faire. Je ne travaille pas pour le KGB. Et puis, on est appelé au ministère, on n'est pas appelé pour surveiller les gens, et encore moins pour savoir comment ils vivent. Parce qu'avant de regarder chez les autres, il faut déjà que je regarde comment c'est rangé chez moi. Je ne parle pas de ma femme, du ménage, je parle de mon bureau, qui pour eux, certains, ils disent, mais il y en a de partout, mais je suis chez moi dans mon bureau, je m'y retrouve. Mais pour dire les toilettes, si je demande d'aller aux toilettes, ce n'est pas pour voir comment que ça se passe dans les toilettes ou quoi. Mais je suis étonné parfois, ça m'est arrivé de voir des calendriers chrétiens dans les toilettes. Alors je me dis, mais si le calendrier est là, c'est que la personne, quand elle vient aux toilettes, elle lit le calendrier. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Moi, ça me gêne. Hein. Je dis, comment on peut rentrer, enfin, lire un passage biblique? Enfin, vous imaginez. Vous comprenez? Je veux dire, la présence de Dieu, mes frères et sœurs, je suis sérieux. On est respectueux quand on rentre dans la présence de Dieu. Je suis sûr que si demain vous êtes convié par le maire à le rencontrer parce que vous avez sollicité une demande ou parce que vous êtes en recherche d'un emploi, vous allez voir le DRH, vous n'allez pas venir comme ça les mains dans les poches. Là, on check ? Non. Vous allez bien vous habiller. Il n'y a pas besoin de mettre le costume trois pièces, mais vous allez rentrer avec un saint respect. Un saint respect. Donc dans la présence de Dieu, on y rentre. Dans le lieu de la présence de Dieu, je ne rentre pas comme je vais boire mon café. J'espère que je n'ai choqué personne. J'espère. L'avenir le dira. Ce lieu très saint était de dimension très modeste. Il mesurait 5 mètres de large, 5 mètres de longueur, 5 mètres de hauteur. Vous avez compris un peu ? Ça ne vous fait pas penser à une forme géométrique ? Eh bien, c'est tout simplement le cube qui est de la figure géométrique parfaite. Les angles sont égaux, les côtés sont égaux. Et ce qui pourrait être étonnant, c'est de voir un Dieu immensément grand, éternel, tout-puissant, demander à ce qu'une représentation se fasse dans un cube. Mais en fait, si on réfléchit simplement, on sait que Dieu veut demeurer dans bien plus petit qu'un cube, dans notre cœur. Et dans mon cœur, il doit y avoir la place de Dieu. Et en fait, ma rencontre avec le Seigneur ne se fait pas simplement quand je le décide. Mais c'est une tenue, c'est une philosophie de vie, je dirais. C'est-à-dire un engagement de vie. Quand tout va bien, quand tout va mal. Quand je suis présent avec mes frères et sœurs. Et quand je suis tout seul dans mon hôtel, parce que j'attends pour prendre un avion ou je ne sais quoi. Quand je suis dans un mariage, où tout le monde, c'est l'euphorie parce que bon, ils ne se tiennent pas. Je ne suis pas, on ne doit pas être des donneurs de leçons, mais je dois rappeler que celui qui vit en moi, c'est le Seigneur. quand je suis seul, quand il y a des choses qui me dérangent, quand parfois je peux être pris de colère. Quand c'est une sainte colère, ça va. Mais quand c'est une colère qui n'est pas saine, et quand elle n'est pas sainte, c'est autre chose. Donc il faut que je mets de l'huile. Nous sommes tous pareils. Nous avons nos hauts, nous avons nos bas. Mais je dois rappeler à mon cœur qu'il peut arriver que parfois je sois, pas parce que je le veux, mais parce qu'à cause d'un trait de caractère, d'une parole, d'une écoute, d'un regard, de penser attrister celui qui habite en moi. Nous n'avons plus besoin de nous retrouver autour du lieu très saint, parce qu'en fait, nous n'avons pas besoin de nous retrouver dans le lieu très saint, dans l'attente de la rencontre. Elle n'existe plus. Mais lui se rencontre à moi et moi je me rencontre à lui. J'ai dit, je crois que c'est dans la semaine, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle intimité! Quelle intimité! Il s'invite à venir dans mon cœur, dans ma maison. Mais je dois veiller pour ne pas m'y habituer, de peur qu'à mon tour, je sois comme le peuple hébreu, dire « Je suis dégoûté de cette manne ». Je dois rencontrer le Seigneur. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 16, il est écrit « La ville avait la forme d'un carré ». Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, se trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La Bible, dans l'Ancien Testament, parle du Nouveau Testament. Le cube, dont il est question ici, ça nous parle de la perfection. Notre Dieu est parfait. Si Dieu n'a pas réclamé une grande demeure, on va dans parfois même dans notre pays de France, on va dans des endroits, ce sont des pèlerinages qui se font. En fait, il y a des demeures immenses, mais qui sont creuses. Je me rappelle un jour, j'avais emmené un groupe dans des touristes, je les avais emmenés dans une abbaye, dans le Vaucluse, l'abbaye de Sénanc. Et un endroit particulier, lorsque vous mettez, bon, c'est connu dans tous ces édifices parce qu'ils ont été faits pour ça. Pour ça, on n'a pas quoi de se vanter quand on fait de beaux bâtiments. À un endroit précis, lorsque vous parlez tout bas. Tout le monde entend. Tout le monde entend. Parce que la caisse de résonance fait que, voilà, il y a une sonorité parfaite. Là, maintenant, on essaie de faire des trucs parce que, voilà. Mais à cette époque, voilà. Sauf que le bâtiment est vide. On entend. Mais le bâtiment est vide de la présence de Dieu. Un jour, je suis allé dans une église, frères et sœurs. Une belle moquette. Vraiment, hein. Épaisse, des lumières de partout. Je ne suis pas contre les projecteurs, pas du tout, c'est pas ce que je veux insinuer. Mais pour dire que le bâtiment par lui-même, un beau bâtiment, c'est creux. Pour ne pas que ça soit creux ou que ça devienne creux dans notre cœur, je dois l'entretenir. Je dois l'entretenir. Prendre conscience que je suis le temple du Saint-Esprit. Christ veut purifier nos cœurs par son sang. Et Dieu veut habiter dans notre cœur à la condition que nous acceptions, que nous soyons purifiés par le sang de Christ, mais que nous soyons dans l'obéissance de sa parole. Je l'ai encore dit, je crois que c'est dans la semaine, et ça me met en fait pas dans la colère, ça me met dans une sainte colère, une saine colère, une sainte colère. Je ne supporte pas de voir dans une... Enfin, je ne supporte pas. J'accepte, hein, mais je ne comprends pas qu'on ne mette plus la croix. La croix a toute sa place dans l'Église. Alors j'ai entendu, dans une certaine Église, on ne mettait pas la croix parce que c'était pour éviter de choquer certaines personnes. Eh bien, je vais vous dire clairement, avec ma nature, je m'en moque complètement que ça choque. Mais alors, d'une profondeur, je m'en moque royalement. Parce que si on retire la croix, ben, on retire le sacrifice de Christ dans la parole. Et puis comme ça choque parce que la croix, c'est un lieu de sacrifice et du sang, eh bien on retire le sang dans la Bible. Sauf que dans la Bible, il nous dit, sans effusion de sang, point de pardon. Christ doit avoir toute sa place au centre. Mais au centre, pas à 3 cm près, au centre de mon cœur. L'entrée du souverain sacrificateur dans le lieu très saint, il ne se faisait pas, j'ai cette image, les mains dans les poches. Bon, c'est une fois dans l'année, donc je rentre. Enfin, merci. Il rentre, mais pas les mains vides. Il rentre avec le sang du sacrifice qui a été fait à l'extérieur. Et il venait le verser sur le propitiatoire étant le couvercle du tabernacle, de l'arche. Et ça nous fait penser à un passage de la parole. Nous venons peut-être dans l'Église, d'une manière je suis en train de chercher le passage. Nous venons peut-être dans la maison du Seigneur, ça y est, j'ai perdu le passage, c'est pas grave, bon, voilà. Peut-être on ne prend pas conscience de la réalité. Lorsque David va avoir péché parce qu'il va demander le dénombrement, pris par orgueil, j'ai un pouvoir, Dieu va le punir, le châtiment de Dieu. Et à un moment donné, Dieu va arrêter. Et il est écrit qu'il va aller acheter un terrain avec les animaux et la charrette là, qui était avec le bois pour l'Holocauste. Et l'homme à qui appartenait ce terrain va, lui de tout son cœur et gentiment, comme c'est le roi, il va dire « Ben voilà, je te donne tout, voilà, comme ça tu as le sacrifice. » Et David va dire en quelques mots « je n'offrirai rien de ce qui... qui a dit ça ? Oui. Je n'offrirai pas quelque chose qui ne m'a rien coûté. Qui ne m'a rien coûté. » Et mes frères et sœurs, il est important de réaliser que de marcher avec Dieu, ça coûte. Ça coûte. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens du dimanche, mais chrétiens pour l'éternité. Dès l'instant où on a accepté Christ, passer par les eaux du baptême, ça occasionne quand même une responsabilité. Hein. C'est pas « Ah ben mon père, il était pasteur, alors je vais faire pareil, je vais me baptiser. Ouais. » « Oh ben moi j'ai des copains, ils sont engagés, alors je vais prendre un bain. » Tu veux prendre le bain, tu vas à la piscine, ou tu vas à la mer, c'est encore temps. Mais lorsque je prends le baptême, j'accepte en fait que Christ vienne prendre sa demeure dans mon cœur. Vous imaginez qu'un jeune homme, il dise à celle qui va devenir sa femme, « Écoute, je te fais ma déclaration d'amour. Oh, je t'aime. Mais avant que tu me dises oui, je veux juste te dire, je t'aimerai une semaine sur deux. » Vous, ça vous fait sourire. Vous imaginez la future femme ? Elle dit, « Attends, tu m'as bien regardé, là ? Tu crois qu'on va te marier une semaine sur deux et l'autre semaine tu vas faire quoi ? » Je fais ma vie, je suis jeune, voilà. Personne ne voudrait se marier avec un gars comme ça, hein, vous êtes d'accord avec moi ? Imaginez que vous disiez au Seigneur, « Seigneur, je m'engage avec toi Je veux que tu sois au centre de mon cœur, au centre de ma vie, tous les dimanches matins de 10h à midi. De 16h à 17h, je rappelle les heures de réunion comme ça, 15h, 16h le jeudi, 19h30, 20h30 environ le jeudi soir pour Martigues. Et quand tout va bien, ça va bien, je permets que j'accepte que tu sois au centre de mon cœur. Vous imaginez un peu? Bon, ça vous fait sourire parce que vous comprenez bien, on comprend bien que c'est ridicule. Mais c'est simplement pour nous faire prendre conscience, frères et sœurs, que mon engagement avec Christ, le souverain sacrificateur, eh bien c'est nous. On rentre dans la présence de Dieu. Mais je ne rentre pas n'importe comment, je viens pas apporter du sang, mais couvert du sang de Jésus. Le sacrificateur, donc, il y a quelque chose qui peut nous interpeller, en fait, c'est qu'on le voit rentrer, on le sait qu'il rentre. Mais il semble qu'il ne dise pas un mot dans le lieu très saint. On ne l'entend pas dire « Je te loue, je te bénis », ça serait normal aussi. Il ne dit rien. Pas tétanisé par la peur. Oh ! Dieu ne veut pas que nous soyons tétanisés par la peur de sa présence. Mais rentrer dans la présence de Dieu, en fait, on n'a plus rien à dire. Notre vie comme une offrande, comme une louange, une adoration. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ont le toupet. La folie, je dirais. C'est pas du courage, c'est de la folie. C'est-à-dire, moi, le jour que je meurs, je vais en dire des choses à Dieu, tu ne t'inquiète pas, je vais régler mes comptes. Ils ne lisent pas la Bible, ça c'est sûr. Toute bouche sera fermée dans la présence de Dieu. Toute bouche sera fermée dans la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des choses que vous ne comprenez pas, que je ne comprends pas aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne saisit pas. Pas parce que Dieu jouerait avec nous. Pas parce que Dieu voudrait faire le chef en disant « Ah, c'est moi qui domine, ah, j'aime dominer !» Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'a pas besoin de ça. Il se rit de ces gens qui... Dieu est au ciel. Il n'a rien à prouver à personne. Il est Dieu. Mais vous savez, nous sommes tous là avec des questions. Alors, des fois, on a des réponses. La vie fait qu'on a les réponses. Des fois, on n'a pas la réponse tout de suite parce que on n'est pas assez mature. Et parfois, on n'a pas du tout les réponses parce qu'en fait, c'est pas du mépris ce que je dis, mais nous n'avons pas l'intelligence pour comprendre certaines choses. Nous n'avons pas l'intelligence pour comprendre certaines choses. Et parfois, on se dit, mais moi, quand j'irai au ciel, et sans rébellion, bien sûr, quand j'irai au ciel, je dirai au Seigneur, « Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça ?» Vous savez, il y a un poème qui est passé il y a quelques années, là. C'était beau, mais en fait, c'est beau, mais je ne crois pas en fait que ce soit très biblique. Enfin, en partie, oui, mais pas tout à fait. Quand ce poème nous dit en quelques mots que la personne marchait avec le Seigneur sur le bord de la plage. Vous vous rappelez de ce passage, de cette histoire? Donc, il y avait quatre pas, voilà. Et puis, à un moment donné, cette personne est étonnée de ne voir plus que deux pas. « Seigneur, tu étais où ?» Là, c'est une période de ma vie où j'étais dans la difficulté. Et s'entendre dire « Je te portais dans mes bras. » Bon, voilà. Bon, en gros, c'est ça. En partie, oui. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la totalité. Pourquoi? Parce que je crois, frères et sœurs, que lorsque nous arriverons au ciel, nous n'aurons plus de questions à poser. On sera comme le souverain sacrificateur, on sera là dans la plénitude, dans la présence de Dieu. Et ça suffira amplement, ça viendra combler toute notre vie. Vous avez le droit, nous avons le droit de nous poser des questions sans tomber dans la faille de la rébellion. Faisons attention, frères et sœurs, de ne pas tomber dans la faille. Même si aujourd'hui nous nous sentons forts, dans la marche avec le Seigneur, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Je vais vous raconter juste une histoire. Un jour, je visitais une grand-mère en maison de retraite, une grand-mère qui marchait avec le Seigneur. Et cette grand-mère m'a dit que dans cette maison de retraite, il y avait le culte catholique, la messe. Alors j'avais dit à cette brave sœur, ma sœur, n'allez pas à la messe. Ah mais on m'y emmène. J'y vous avez le droit de dire je ne veux pas. Ils n'ont pas le droit de vous imposer d'aller à la messe. Donc n'allez pas à la messe. Après moi je ne suis pas. On invite, on encourage ou parfois on incite, mais après les gens ils font comme ils veulent. Sauf que cette grand-mère est allée à la messe. Et puis petit à petit, puis jusqu'à un jour je suis allé lui rendre visite et elle m'a dit « Ah mais moi je parle à Marie !» Ah parle à Marie. Alors j'ai compris que c'était un piège, la messe. En fait, cette brave sœur qui, en son temps, elle était peut-être catholique, priait la Vierge comme on m'avait appris qu'il fallait le faire, eh bien, elle est tombée dans un panneau. Alors, il a fallu recommencer, ma sœur, n'allez pas à la messe. Et il a fallu rappeler les fondamentaux en disant, mais Marie avait eu besoin de Jésus, c'est pas Marie qui est morte à la croix, ceci, cela. Il y a des pièges. Il y a des pièges. Et je vous le dis, frères et sœurs, écoutez bien, les plus âgés parmi nous, ne pensez pas, ne vous dites pas, bon, il y a certaines choses qu'ils m'ont passées, je suis âgé, donc ma vie, voilà, ça. Je surfe sur la plage, sur la vague de la vie. Cette sœur, vers la fin de sa vie, elle me parlait de Marie. Comme quoi, il faut faire attention, l'adversaire cherche n'importe qui. Une question, pourquoi le souverain sacrificateur ne faisait-il jamais allusion à ce qu'il voyait au-delà du voile ? Lorsque le souverain sacrificateur, il arrivait, il sortait de son service du lieu très saint, il ne disait pas à sa femme, « Bon, oh non !» J'ai un moment avec le Seigneur, là. Oh, oh, oh mais comment c'est? Dis-nous comment c'est. Ah ben, c'est comme ça, il fait nuit, quand on rentre, il fait nuit. Ouh. Là, et puis, je verse le sang, puis voilà. C'est le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur rentrait. Il y a des choses, frères et sœurs, qu'il ne faut pas dire. Certaines expériences spirituelles sont inexprimables. Dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul nous fait part d'une expérience. Verset 1er. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, il parle de lui en fait. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas, Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Mes frères et sœurs, il y a des choses que vous vivrez avec Dieu. C'est à vous que ça appartient. Il y a des choses qu'on peut dire, bien sûr. Mais il y a des choses, me semble-t-il, qu'il faut les garder pour soi. C'est notre jardin secret. Dieu connaît toutes choses. Mais il y a un secret entre Dieu et moi. Seigneur, tu vois où j'en suis, et ceci et cela. L'arche, nous le verrons plus tard, Dieu voulant, était surmontée du propitiatoire. J'ai parlé du plateau, du couvercle. L'arche de l'Alliance était un coffre d'une dimension relativement petite aussi, et qui, elle aussi, avait été indiquée à Moïse par Dieu. Encore une fois, ce n'est pas Moïse qui dit, bon, tiens, on va faire un coffre, bon, voilà, bon à l'arrache. On ne sert pas Dieu à l'arrache. On ne marche pas avec Dieu à l'arrache. Aujourd'hui j'ai prêché. Alors, aujourd'hui j'ai prêché, c'est mon jour de prêcher. Alors, ces feuilles. Alors, je prêche, Seigneur, conduis-moi. Judas la serpent, de toi fais de même. Vous imaginez un truc comme ça? Ça irait pas. Dieu ne demande pas de nous pendre, bien sûr. On ne sert pas Dieu à l'arrache. On ne marche pas avec Dieu à l'arrache. Dieu est Dieu. Et ce qui est important, frères et sœurs, c'est de respecter la sainte présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous respecte. Et pas parce que Dieu nous respecte qu'il faut respecter Dieu. Mais je serais tenté de nous dire, nous nous habituons tellement aux bonnes choses. Et combien de temps que vous êtes chrétien? 2 mois? 6 mois? Ou comme peut-être dirait un vieux chrétien à quelqu'un qui vient d'être converti depuis 6 mois ou 1 an? Oh, t'emballe pas trop! Ça te passera, le zèle! J'espère que ça lui passera pas, le zèle, ou jeune. Par contre, toi, papy, mamie, tu ferais bien de renouveler dans le zèle. Il n'y a pas besoin d'être âgé, hein? Et on peut avoir 5 ans de conversion et puis te dire le zèle. Ouh, j'ai plus le zèle. Vieux avant l'âge. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est de se rappeler combien nous avons besoin de nous rappeler des choses essentielles concernant Dieu. Est-ce que vous faites référence à Dieu, des dons que Dieu, pas des dons, des paroles que Dieu vous a dites un jour? Ça vous arrive dans votre temps de prière de dire « Seigneur, je me rappelle de cette promesse. Seigneur, voilà, tac, 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 tac. » Vous récitez, je dis bien, récitez le don spirituel. Là, des fois, il y a des gens, ils entendent un don spirituel, ils sortent de l'église, qu'est-ce qu'il a dit, le don? Mais ce n'est pas du mépris, c'est parce que, en fait, le don ne concernait pas la personne à qui vous posez la question. Il y a des dons spirituels que vous avez entendus, gardez-les précieusement dans votre cœur. Il peut se passer des années, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, voire plus, années. Sur quoi vous vous basez pour dire 45? Sur Caleb! Caleb! Vous vous rappelez de Caleb? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Caleb? Qui c'est celui-là? Caleb était avec Josué! Les 12 espions! Il en faisait partie des 12 espions lorsqu'ils ont visité la terre d'Israël, la terre de Canaan. Et sur les 12, ils ont tous vu la même chose, ils ont tous goûté la même chose, ils ont remporté des preuves, ils ont vu des géants. Mais sur les 12, il y en a 2 qui se sont démarqués. Les 10, ils étaient comme ça, à leurs yeux on a l'air d'être des sauterelles, et nous sommes des sauterelles, ce sont des géants pour nous. Ils ont dénigré. Mais Josué et Caleb, donc c'est ce qui a fait qu'ils sont restés 40 ans dans le désert. Josué et Caleb, parlez pas comme ça. Arrêtez de parler comme ça. Ils avaient un autre état d'esprit. Et Caleb, l'homme qui restait dans l'ombre de Josué, chacun avait sa route. Vous avez ces 2 gars-là, ils marchaient avec le même Seigneur. Hein. Deux directions différentes, tout en étant dans la parole. Josué qui va devenir celui qui va remplacer Moïse, et Caleb qui sera le conquérant, il va attendre 45 ans. Combien j'ai dit? Non, vous n'avez pas tous répondu. Combien j'ai dit? 45 ans avant que la promesse ne se réalise. Et qu'est-ce qu'il va dire en quelques mots? Mais moi, tiens, j'ai toujours la pêche. Enfin, il n'a pas dit ça. Hein. J'ai autant de vigueur que quand j'étais jeune. Ceci, cela. Est-ce que la promesse que Dieu vous a faite, est-ce qu'elle a autant de vigueur dans votre cœur, dans votre vie? Est-ce que vous êtes capable de dire, oui, le Seigneur m'a appelé un jour à partir en mission. Mais vous savez, ça fait déjà 6 mois. C'est tellement long le temps. 6 mois, c'est long. Mais tu peux t'accrocher, je te le dis. Ça fait 2 ans que le Seigneur m'a donné cette promesse de partir en mission ou de rentrer dans le ministère ou autre. Vivre quelque chose. Seigneur va me conduire. Mais attendez, C'est Dieu qui ouvre les portes et qui les ferme. Et parfois, ça peut mettre des années et des années avant que ça ne se fasse. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, que Dieu voit. Les pierres qui seraient des obstacles dans votre vie, où il vous faudra passer à terrasser ce Jéricho, ça sera l'un des plus grands combats de votre vie. Parce que vous pourriez passer à droite ou à gauche devant ce Jéricho. Mais parce qu'il fallait combattre ce Jéricho, c'est Dieu qui va combattre, mais dans l'obéissance. Faire le tour sans dire un mot, le dernier jour, « Hey, gloire à Dieu !» Hey, mes frères et sœurs, je vous dis tout ça, en fait, ce n'est pas écrit dans mon papier. Mais c'est important de l'entendre, je crois. Cet arche faisait 1,25 m de long, 75 cm de large et autant de hauteur. L'arche était constituée de bois d'acacia. Et vous voyez, recouverte d'or. Le bois d'acacia nous parle de l'humanité de Christ. Encore et encore Christ. Et cet or nous parle de sa divinité. Sa place, le fait qu'il n'y avait aucune autre chose que dans le lieu très saint et qu'elle était au centre, indique la place prioritaire. Elle ne se partage pas avec quelqu'un d'autre, avec un autre objet. Christ ne se partage pas avec quelqu'un d'autre dans ma vie. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut aimer son prochain, ceci, cela. Et le gars, il était comme ça. Ah, oh, mais toutes ces choses, je les fais depuis ma jeunesse. Et c'était le jeune homme riche. Ce gars, écoutez, on avait, bien sûr, c'était de nature pécheresse, mais on n'avait rien à lui reprocher. C'était un bon gars. Ses parents, ils étaient fiers de ce gars. Peut-être que quand il avait des copains, il s'était engagé avec son père, ou même sans s'être engagé avec son père, voyant que son père avait quelques travaux à faire, les copains disaient, viens avec nous, Jimmy, viens avec nous. Jimmy, non, enfin bon, Jimmy. Viens avec nous, Jimmy. Ah oui, oui. Ah, mais papa, il a quelque chose à faire. Non, écoutez, je vous laisse, je vais aider mon père, même s'il ne m'a rien demandé. C'est un bon gars. Sa mère, il aidait sa mère. Elle avait un tour de rein, il faisait le ménage, il l'aidait. Même si c'était un gars, il savait mettre la main à la vaisselle pour faire la vaisselle et passer l'aspirateur. Il ne posait pas de problème. Ce n'était pas pour lui humiliant, même si c'était un homme. Lorsqu'il voyait des jeunes filles, il ne les méprisait pas, il ne les sifflait pas. Quand il voyait une grand-mère avec son sac qui était lourd, eh bien, il lui donnait un coup de main. C'est un bon gars. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, fais une chose. Vends tes biens, distribue-les aux pauvres, puis après tu viens. Ce n'est pas un problème d'être riche. Mais pour lui, c'était un problème, parce qu'il était esclave de sa richesse. Il voulait partager Dieu et sa richesse. Y a-t-il quelque chose avec lequel vous êtes en partage avec Dieu? Alors ne soyez pas étonnés si vous n'avancez pas avec Dieu. Ne soyez pas étonnés si vous avez l'impression que vous n'évoluez pas, parce que Dieu ne se partage pas. C'est Dieu en premier, et le reste après. Comprenez, mes frères et sœurs, que c'est important que Dieu soit le premier dans mon cœur, dans ton cœur, que ta femme, que tes enfants, tes petits-enfants passent après. Vous savez pourquoi ? Si vous passez votre femme, vos enfants, vos petits-enfants avant, ou votre mari, avant Dieu, le jour que vous aurez un problème avec les uns ou les autres, combien de parents ne parlent plus à leurs enfants? Combien d'hommes et de femmes qui se sont tant aimés, aujourd'hui ont divorcé? Parce que Dieu n'était pas en premier dans leur vie. Quand Dieu est en premier dans sa vie, alors ça nous aide à supporter, à porter les problèmes des uns et des autres. C'est Christ en premier dans ma vie qui me donnera d'aller voir ma femme ou les dames, aller voir leur mari et dire « Je te demande pardon, je te demande pardon. » Si Christ n'est pas en premier, vous n'irez pas voir votre mari, vous n'irez pas voir votre femme pour dire « Ma chérie, ouais, je te demande pardon. » Bon, comme ça c'est fait. Bon, « Je t'ai demandé pardon, tu vas pas faire comme ta mère !» C'est un pardon de Dieu. « Je te demande pardon. » Combien de parents attendent que ce soit les enfants qui aient demandé pardon aux parents?
Mais frère, c'est moi le père! C'est moi le père! Les enfants doivent le respect au père!
Oui, mais le père doit le respect à ses enfants. Peut-être que c'est à vous d'aller voir votre fils, d'aller voir votre fille, pour dire « Ma chérie, je te demande pardon ». N'attendez pas de faire un bilan pour dire « Mais c'est lui, c'est elle qui a commencé !» Qui c'est le chrétien là dans l'affaire? C'est peut-être vous, c'est pas votre fils.
« Oh, je lui ai parlé du Seigneur, c'est son choix !»
Mais c'est pas comme ça que vous le ferez venir à l'église. Hein? Allez voir votre fils. Allez voir votre fille. Vos petits-enfants. Et si vous avez besoin de demander pardon, faites-le. Si Christ n'est pas en premier dans votre cœur, vous ne le ferez pas. Christ ne se partage pas. Christ nous fait avancer. Vous êtes marié? Encore une fois, vous n'êtes pas marié pour une fois sur deux, une semaine sur deux. Vous imaginez encore une fois votre femme, elle vous dit « Mais écoute, ma chérie, je me marie une fois sur... je suis à toi une semaine sur deux. Et l'autre semaine, je serai avec Berthe. » J'espère qu'il n'y a pas de Berthe, hein, j'ai pris un vieux prénom pour pas... Avec Berthe! Ben non, ça ne marche pas comme ça. Je ne me partage pas. Je suis ta femme. Je suis ton mari pour les dames, parce qu'il faut préciser. Je ne me partage pas. Moi, ma femme ne supporterait pas qu'elle soit partagée. Hein. Mais regardez-moi bien dans les yeux. Tiens, je m'avais mis une lunette pour bien voir. Regardez-moi bien. Vous croyez que moi, j'ai accepté que ma femme, je partage ma femme avec quelqu'un d'autre? Aïe, aïe. J'en dis pas plus. Vous avez compris. Non, mais ça vous fait sourire, mais en fait, c'est ça. Mais regardez, avec Dieu, c'est pareil. Seigneur, je t'aime, t'es ma vie. OK? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'aimer les autres. Mais Dieu en premier. Des fois, je suis étonné d'entendre les gens. « Ah oui, moi, je cherche du travail, parce que vous savez, il faut que je nourrisse mes enfants. » Oui, et toi, tu ne manges pas? Et ta femme non plus? Ah non! Mes enfants, comment est-ce tes enfants, et ta femme, elle est où? Oui, c'est ma femme. Oui, elle les a portés 9 mois, et t'as aimé ta femme, c'est un lien d'amour, hein. En fait, c'est le fruit de votre amour. Donc les enfants, c'est avec ma femme, donc c'est ma femme et mes enfants. C'est dans l'ordre chronologique, ma femme et mes enfants. Avant d'avoir eu mes enfants, j'ai eu ma femme. J'ai aimé ma femme, j'aime ma femme. Donc ma femme et mes enfants. Je termine. Oh là, oui. Ouh. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit placé dans l'Église, au centre. C'est tellement évident hein, que ce que j'ai dit. La volonté de Dieu, donc, c'est qu'il soit au centre. Voilà, je poursuis. Je brûle les étapes. Alors, sur l'ordre de, à l'intérieur de l'arche et sur l'ordre de l'Éternel, Moïse avait placé les tables de la loi. L'arche nous parlant de notre cœur, en fait. Dans le psaume 40, verset 9, il est écrit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur, dans l'arche. » Et puis, Dieu va demander aussi qu'il y ait la manne. Je ne vais pas vous le lire parce que ce serait trop long. La manne et le pain, ce pain. Jésus nous parle du pain de vie dans Jean 6, versets 32 à 40. Du chapitre 6 au verset 47 à 51. « Je suis le pain de vie. » Jésus veut nous nourrir, nous, mais il faut que Jésus soit au centre de mon cœur. Et puis le bâton était aussi dans le coffre, dans l'arche. Morceau de bois sec. Qui tout à coup va fleurir, bourgeonner et porter du fruit. La résurrection, le bâton, l'image bien sûr, Christ, la résurrection dans mon cœur. Conclusion, dans le cœur du croyant, la mise en pratique. Plus le Seigneur occupera la place centrale dans nos cœurs, plus nous vivrons les réalités spirituelles en Christ. La manne qui va nous nourrir, le bâton, puissance de vie. Nous aurons la puissance de Dieu, pas pour dire, écoutez, écoutez-moi. Va te coucher. Laisse-eux et voilà, ne faites pas au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche, sort. Oh, l'autre, il était là, dis donc, ils étaient plusieurs ou il était tout seul. Nous, on sait qui c'est Jésus, on connaît l'apôtre Paul. Maintenant, à vous, paf! Vous connaissez ces gars? Les fils de Séva. Les gars, ils se sont dit, papa, il sert Dieu. Ouh! C'est une entrée pour faire ce qu'on veut. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ceux qui se disent, moi je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Allez Gilbert, allez hop! Les filles qui passent. Ils sont devenus manipulateurs en radiologie. Ah ben je vous assure. Mais ça, c'est pas être chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou scanner si vous voulez. Mais Christ, au centre de mon cœur, si Christ est au centre de mon cœur, alors il va me nourrir de sa présence. Ça ne veut pas dire que je passerai à côté des états, des moments difficiles. J'en vivrai des moments difficiles. Ici, il y en a plein, là. Qu'un jour, ils ont perdu un être cher. Qu'est-ce qui fait que ces mêmes gens sont toujours là? C'est parce que Christ les a nourris, les a consolés, les a renouvelés, les a régénérés. Qu'est-ce qui fait que nous sommes là depuis des années et des années et que nous sommes toujours là? C'est parce qu'il y a le bâton de la résurrection, le bâton de l'autorité, de la puissance de Dieu. Nous l'avons accepté dans notre cœur. Vous savez, on peut avoir un tempérament fort ou pas. Vous savez, vous pouvez avoir un tempérament comme ça, de béton. Mais lorsque vous rencontrez des temps difficiles, vous pouvez faire 1m90, 110 kg, et puis avoir un caractère, et puis regarder les gens comme des brutes, ben vous ferez comme tous les copains. On vous enterrera. On vous enterrera. On dira, comment ça se fait que Gilbert, il vient plus à l'église? Oh, ben, de Dieu, voilà. Mes frères et sœurs, il faut accepter ce bâton dans notre cœur. Dire, Seigneur, remplis-moi de ta présence, de cette autorité, pas pour faire le m'as-tu vu, mais dire, j'ai l'autorité de Jésus dans mon cœur, pas de le dire, pas de le proclamer, au nom de Jésus. Arrête un peu, fais pas du cinéma, tu le vis, mais fais pas de cinéma. Vis Jésus. Vivre Jésus, avoir le bâton, l'autorité dans son cœur, c'est pas pour en mettre plein la vue aux autres. Parce que Dieu aura vite fait le court-circuit, je vous le dis, hein. Mais avoir le bâton de l'autorité de Christ, c'est de dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Vous savez, je l'ai dit il y a 15 jours, ou je ne sais plus quoi. On m'a envoyé ça un jour. Mais ça aurait pu être biblique. Mais ce n'est pas biblique. C'est signé Jacob. Mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Le fort, c'est le titre. Je vous l'ai dit l'autre jour, vous vous rappelez? Il y en a qui font ça, mais vous n'étiez pas là, je crois. Le titre, c'est le fort. Le fort, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui tombe et se relève et poursuit sa marche. Oh, c'est fort, c'est beau ce message, ce poème, je le trouve beau comme tout. Alors moi, j'ai gardé dans ma Bible, et puis de temps en temps, on est fort, oui. Allez, ah. Mes frères et sœurs, je termine. Et ces commandements, les deux tables, elles doivent être au centre de mon cœur, pas pour faire ce que je veux. Aujourd'hui, je suis bien luné, alors, alléluia, gloire à Dieu. Demain, je suis en prison. Oh, loue, prie, pas les silences. Et dites-vous bien, peut-être que lorsque vous passez par des moments qui sont terribles, difficiles à vivre, le diable ne va pas vous envoyer un SMS en disant, c'est ta fête aujourd'hui, je m'occupe de ton cas. C'est pas comme ça que ça se passe. Si ça se passait comme ça, mais moi j'ai, super, je le sais, donc c'est bon, je vais tenir bon. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Des fois, il nous tombe des tuiles. Oh, on l'avait pas prévu. Forcément, c'est une tuile qui tombe. On l'a pas prévu. Voilà. Mais sauf que des fois, c'est pas toujours le diable. Mais des fois, c'est l'adversaire qui fait en sorte de... Ah, Jacob, il a jamais su pourquoi... Non, pas... Job, il a jamais su pourquoi il est passé par des événements comme ça. Vous le redirez. Jamais. Je lui ai dit, bon, écoute, je vais te parler. Voilà pourquoi t'es passé par... Il a jamais su. Et la conclusion. De même, notre témoignage ne sera efficace qu'à une condition, notre attachement si étroitement à Christ pour... notre témoignage sera efficace que si nous sommes proches de Christ.
Christ au centre et rien qu'au...